trouve ça pas mal ce qu'ils font d'Evy et Poulpe dans leur émission. Là, en début de chaque émission, ils font un vidage de chakras. Et ils se disent chacun un truc qui les a énervés dans la journée.
Je réfléchis du coup. Attends, t'en as toi ?
Ouais, moi j'en ai
c'est
un.
C'est quoi dernièrement le dernier truc qui t'a...
Dernièrement, c'était parce que j'ai un chien depuis pas longtemps. Donc j'apprends, je côtoie un nouveau milieu. C'est les propriétaires de chiens. J'essaye d'éduquer mon chien pour qu'il saute pas sur les gens, pour qu'il saute pas sur les joggeurs. Je veux pas que mon animal soit une entrave pour l'autre, donc j'essaye de l'éduquer en ce sens. C'est comme dans la vie, en fait, dans le monde des chiens, c'est comme dans le monde des humains. Je peux faire autant d'efforts que je veux pour éduquer mon chiot. T'as toujours un connard de chien en liberté qui vient lui sauter dessus, la faire chier, lui mettre de la bave sur la gueule, alors que moi, j'essaye de l'éduquer depuis un quart d'heure pour qu'elle quitte pas mon chevet, et ça marche. Et là, ben voilà, le chien, il est en liberté, les maîtres sont pas loin, ils le surveillent pas, machin, donc toi, ça te baise tout ton quart d'heure d'éducation, et tu peux rien dire, et voilà, ça m'énerve, en fait. C'est un truc qui m'énerve. Ouais. Et les gens aussi, t'essayes de dire à ton chien de rester au pied, machin et tout, et les gens l'appellent, parce que là c'est un chiot, il est trop mignon, donc les gens l'appellent pour lui faire des coucous, machin, puis elle est trop petite pour écouter correctement. Bref, globalement, ça m'énerve parce que voilà, tu fais tout ce que tu peux pour essayer d'élever un animal socialement équilibré et tout, et en fait, le monde extérieur n'est pas toujours d'accord avec toi, et t'as beau faire tous les efforts que tu veux, en fait, c'est pas de ton fait, mais comme être une bonne personne, en fait. Et comme,
l'enfer, c'est les autres.
Voilà. Et je suis sûrement l'enfer de quelqu'un, hein, j'en sais rien. Si cette vieille dame voulait caresser mon chien au moment où je l'éduque, et peut-être que je lui ai pourri sa journée, j'en sais rien. Mais c'est très chiant. Voilà, c'est très énorme.
Ouais, je comprends. Okay.
Voilà.
Okay. Moi, je ne suis qu'amour et bonheur. Et
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oui. Non, d'accord.
Non, je sais pas trop. Non, mais ça va me venir, mais là, tout de suite. Là,
genre ta voisine, par exemple.
Ah non, ma voisine, elle est horrible.
Est-ce que tu n'es qu'amour et bonheur
non,
pour ta voisine?
Non, parce qu'en fait, j'ai emménagé pendant le confinement, juste avant le confinement. Et en fait, elle est montée 12 fois pour me dire que je marchais trop. Mais enfin, j'y peux rien, je marche, quoi. Enfin,
puis t'es dans une vieille bâtisse, donc ça fait
c'est
du bruit.
C'est ça, c'est un vieil immeuble et tout. Et je lui ai dit, au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, c'est horrible parce que vous n'êtes montée que pour me dire que je marchais trop fort. Attends, s'il te plaît, elle m'a demandé de mimer mes pas. Elle m'a dit, montrez-moi comment vous marchez. J'ai dû lui faire une démo de marche.
Tu l'as fait ?
Je l'ai fait comme une conne. Je l'ai fait. J'étais tellement étonnée, j'ai marché.
Elle est malade.
Elle m'a dit est-ce que vous pourriez marcher à la japonaise ? Non mais s'il te plaît, enfin...
Oh là 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 là, quel âge ?
Très jeune, hein ? Plus jeune que moi, je pense. Ouais, genre la trentaine, oh pas la plus. Ouais, horrible, horrible. Oh. Et du coup, à la fin, quand elle est montée la quatrième, cinquième fois, je sais pas, je lui ai dit, en fait, je suis désespérée par la nature humaine. Vraiment. Vraiment, c'est horrible ce que vous faites parce que depuis que je suis là, on a été en confinement, vous n'êtes même pas monté pour me dire bienvenue, est-ce que ça va, est-ce que vous avez besoin de rien et tout. Et les seuls moments où vous êtes monté, c'est en fait pour me faire des reproches sur ma marche.
Ma façon de marcher, chez moi.
Ma façon de marcher.
Surtout que je te connais un peu, t'es pas du genre à sauter sur du Britney Spears à 8h30 le matin.
Ah non, surtout pas.
T'as même pas de chat ou de chien qui pourrait courir partout.
Non, je vis normalement, quoi, vraiment. Et elle m'a dit, non mais attendez, si moi je mets la musique trop fort, vous pouvez me le dire. Je dis, jamais de la vie, en fait. Jamais j'irai, moi je suis pas du tout comme ça, jamais j'irai
on
dire...
vit ensemble, en fait.
Oui.
Si tu veux pas de bruit,
voilà,
tu
je
prends
lui ai dit...
une petite cabane au fond d'une forêt.
Exactement.
Et puis tu fais chier personne.
Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, il faut partir à la campagne. Voilà, on reste pas en immeuble.
Et encore, hein, regarde, il y a une tondeuse qui vient de passer.
Et encore.
J'ai un coq qui chante, j'ai des gosses qui gueulent quand ils font... après moi je m'en fous, hein, mais...
C'est la vie.
C'est la vie, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres encore. C'est c'est marrant parce qu'elle doit se dire que son enfer, c'est toi.
Ouais.
Alors que tu es son enfer à
enfin,
elle.
Alors depuis que je lui ai dit ça, elle n'est plus jamais remontée. En fait, elle m'a regardée, elle s'est excusée et elle m'a dit « Ouais, pardon, je suis désolée. » Et elle n'est jamais revenue. Alors que je marche toujours pareil, je ne marche pas à la japonaise ou je ne sais pas quoi.
Mais écoute, c'est une très bonne introduction à notre sujet finalement. Parce
eh
que...
ouais.
Est-ce que cette personne qui monte pour t'engueuler quand tu marches trop fort, est-ce que ce serait pas un peu Ross et son sandwich ?
Complètement.
Après, on ne la connaît pas, cette personne, donc on ne peut pas identifier quel est son problème.
Elle ne m'a pas hurlé dessus non plus. Hein.
Non, elle ne t'a pas hurlé dessus non plus, mais je pense que chez elle, elle doit bouillonner de... peut-être pas de rage, parce que ce n'est peut-être pas quelqu'un qui connaît la violence physique,
non,
ou,
ouais.
Tu vois, mais elle doit être chez elle et ça doit la... Je pense que ça lui fait une boule au ventre, une boule dans la gorge, elle se met mal.
Elle se focus là-dessus, en fait.
Voilà, elle fait une fixette.
Complètement.
Mais si elle fait une fixette là-dessus, c'est qu'il y a autre chose qui va
pas.
Ah bah
oui, je pense. Ah bah vraiment, parce que je suis pas la pire des voisines, hein,
mais
franchement.
Non,
je fais pas de teuf, j'invite jamais personne.
Donc après, le problème, c'est la faille originelle.
Bah oui.
Voilà, tu et ben on en revient toujours au truc de si tu soignes pas tes blessures, tu saignes sur les autres et tu fais chier le monde,
tu
globalement.
Fais chier le monde, grave. Et donc, ce qui nous amène à notre épisode qu'on veut et faire
ben
aujourd'hui.
Voilà, l'épisode d'aujourd'hui.
Saison 5, épisode 9, celui qui s'est fait piquer son sandwich.
Bah, un épisode culte.
Génial.
Qu'on adore. On va pouvoir mettre plein d'extraits de Ross qui s'énerve. Donc, je fais le pitch.
Vas-y, fais le pitch.
Trois arches dans cet épisode. Donc, on est sur Joey qui est obligé de mentir à tout le monde pour protéger le secret de Monica et Chandler parce qu'il est le seul pour l'instant à savoir qu'ils sont ensemble. On a deuxième arche, donc Ross qui se fait piquer son sandwich sur son lieu de travail. Et la troisième, Rachel et Phoebe qui décident de prendre des cours de littérature pour adultes. Voilà.
Ouais.
Cet épisode est principalement connu pour les excès de colère de Ross qui sont fantastiques.
Est-ce qu'on parle quand même un peu des deux autres arches? Moi, je trouve que juste sur Joey, ben, il prouve encore que c'est le meilleur ami du monde, qu'il est encore l'une des meilleures personnes au monde parce qu'il passe quand même pour un gros pervers.
Ouais, c'est clair.
Aux yeux de tous, et il continue et il est sympa. Bon, après, il arrive bien à retourner la situation en faisant passer Monica.
Oui, bah, c'est mérité en même temps.
Mais c'est mérité.
Non, mais et puis il le fait jusqu'au bout alors que tu vois qu'il en souffre.
Mais grave.
Il est pas bien de faire ça, ouais. Il en peut plus. Je pense que c'est comme ta voisine et les bruits de pas, tu vois, je pense que ça lui fait mal et tout, mais genre par amitié, il continue à le faire et il est assez attendrissant dans cet épisode.
Et Monica et Chandler abusent quand même, hein.
Ouais, bah ils sont très, très auto-centrés, très, très centrés sur leur couple et ça...
Après, Monica, elle l'explique quand même, je crois. Elle dit que pour l'instant, ils n'ont pas envie de poser le truc et d'assumer en fait pour pas avoir plein de questions, pour pas... Ils ont juste envie de vivre leur histoire.
Oui, oui, oui.
C'est vrai que ça peut être chiant un peu ce truc parfois aussi, où t'es obligé de... Alors encore plus quand c'est entre amis, mais d'assumer ton couple, où t'as juste envie d'être tranquille et qu'on te pose pas de questions, parce que toi-même, tu sais même pas trop où est-ce que t'en es, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc ça s'entend quand même.
Ça s'entend, mais après, c'est pas... Il devrait faire plus attention, quoi. C'est juste
oui,
ça.
Oui,
si personne le sait... A priori, t'es pas censé retrouver un slip sur le canapé, quoi.
Well, I'm Joey. Yeah, I'm disgusting. I take my underwear off in other people's homes.
Well, get him out of here. What's wrong with you?
Yeah.
Yeah.
Ils abusent un petit peu, mais après je peux comprendre leur position, puis c'est ce qu'on disait, il y a le côté excitant du secret, de personne sait, et puis comme elle dit, ils sont tous les deux tellement nuls en relation amoureuse. Que pour l'instant ça marche comme ça, ils ont rien envie de changer et bon voilà, ça s'entend et puis c'est pour le ressort comique hein, mais clairement ils sont relous avec
ils abusent quand même.
Ils abusent un petit peu, ça va. Et ensuite bah Rachel et Phoebe qui vont à des cours de littérature, c'est marrant, c'est une arche marrante.
Ouais, Phoebe elle est hyper première de classe, c'est marrant.
Ouais.
Moi je pensais pas, elle a un petit côté Monica justement.
En fait c'est ce qu'elle explique, elle dit qu'elle n'est jamais allée à l'école parce qu'à l'époque où tout le monde était au lycée, elle vivait dans la rue et que bah là elle prend un cours et qu'elle dit j'ai envie d'apprendre, elle a envie d'être à fond dedans, elle rattrape un peu des choses qu'elle a perdues. Et Rachel qu'on a rien à foutre, qui est censée lire les livres, bah moi j'en lis des livres. Elle est censée lire le livre de Charlotte ou Emily Brontë, je sais plus.
Léo de Hurlevent.
Il y a Léo de Hurlevent et
Jane Eyre.
Et Jane Eyre, c'est ça. Et en fait, qu'il y vogue et voilà, qui s'en fout. Alors moi, j'adore quand elle dit qu'elle est tellement crédule, Rachel, quand elle lui dit qu'il y a des cyborgs. Et, elle dit oui, très avant-gardiste, oui, le féminisme, oui, mais surtout les robots.
What struck me most when reading Jane Eyre was how the book was so ahead of its time.
If you're talking about feminism, I think you're right.
Yeah, well, feminism, yes, but also the robots.
Phoebe, quand il s'agit de faire de manipuler les gens pour son propre amusement,
oui,
elle est toujours là, quoi.
Encore une fois, Phoebe, vraiment top des manipulatrices, je trouve. Mais t'as raison pour rigoler à chaque fois.
C'est pour son amusement.
Parce qu'elle se marre quand elle commence à dire... elle est morte de rire, en fait, quand Rachel se plante et qu'elle parle des robots et tout.
En fait,
elle rigole.
Ouais, en fait, les manipulations de Phoebe, c'est toujours sans conséquence.
Oui, oui,
quasiment.
C'est pas grave. Non, c'est pas grave.
Mais voilà, c'est jamais des manipulations avec des grandes conséquences derrière et tout. Mais c'est vrai que c'est le côté pour se marrer. Et oui, elle est morte de rire quand Rachel parle de robot. Tu vois son petit air là.
Après, moi, je comprends aussi ce côté un peu première de classe. Moi, je l'étais pas du tout quand j'étais à l'école. Vraiment, je m'en foutais quoi. J'étais ni cancre ni bon élève, mais j'étais vraiment pas la première et tout. Et je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, j'ai repris des cours d'histoire de l'art. Et ben là, j'étais au taquet. J'étais devant, je prenais des notes, alors qu'il n'y avait même pas de contrôle ou quoi, je me voyais en train de prendre des notes, ce que j'ai jamais fait avant. Effectivement, je trouve que quand t'es plus mature et plus âgée et que tu sais que tu viens vraiment pour apprendre un vrai truc, là, t'es à fond. Donc, je comprends Phoebe, effectivement.
Tu choisis d'être là.
C'est ça.
Qu'à l'école, t'es obligée.
Et t'es vraiment intéressée, t'as un vrai sujet qui te passionne.
Bah
et là, c'est vraiment, ça prend une autre dimension, en fait. Alors que Rachel, t'as l'impression qu'elle revient à l'école comme elle était.
Oui, c'est ça, elle s'en fout.
Quelques années avant, quoi.
Oui, oui, c'est vrai.
Elle veut juste être avec sa copine et c'est trop cool, et voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Puis Rachel, c'est pas quelqu'un qui a la curiosité d'apprendre des nouvelles choses, c'est pas quelqu'un de très ouvert sur apprendre des nouvelles choses, alors que Phoebe, elle est tout le temps dans la découverte de nouveaux trucs.
Ah, c'est vrai.
Elle fait ses chaussures, elle fabrique sa maison de poupées.
Oui, elle est plus curieuse.
Elle fait des tableaux avec des mannequins dedans. Voilà, elle est toujours sur un peu créer de la nouveauté, elle est curieuse et tout. Rachel, elle sait ce qu'elle kiffe, elle se cantonne à ça et elle va pas beaucoup chercher plus loin.
Non.
Souvent, la littérature, elle s'en bat les reins.
Complètement.
Ouais.
D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle le fait juste pour être avec sa copine, en fait.
Oui,
c'est pour partager un truc à deux, quoi.
Alors, ce qui est marrant, c'est quand Monica y va à la fin.
J'adore.
Putain. Non, mais elle lève la main pour répondre à une question alors qu'en fait, c'est le prof lui dit, mais c'est toi qui as posé la question.
C'est hyper drôle. Hyper drôle ça.
J'adore.
Ouais.
Encore un épisode qui prouve le besoin de compétitivité de Monica, maladif, insupportable.
Hyper drôle quand même.
Et d'ailleurs, tout le monde la déteste dans le cours. Hein.
En plus, elle a réussi à avoir une interro la semaine prochaine.
Quelle conne.
Elle est trop contente.
Monica, you asked the question.
L'arche principale, Ross et son sandwich.
Son sandwich.
Donc pour resituer quand même, Ross est en colère parce qu'un de ses collègues, enfin quelqu'un à son travail, a mangé son sandwich. Alors pour resituer, c'est le sandwich d'après Thanksgiving, donc c'est un super bon sandwich avec des restes de dinde. Il explique que Monica, elle fait tremper une tranche de pain dans la sauce de la dinde et tout, et qu'elle met ça au milieu et que ça fait une couche d'humidité, c'est génial, enfin c'est le meilleur sandwich de la Terre. Et on rappelle aussi qu'il est en plein divorce avec Emily, son deuxième mariage vient de complètement capoter, il vient de se faire virer de son appartement. Parce que c'était l'appartement du cousin d'Emily, donc forcément, là, on le met dehors, donc il se retrouve à squatter chez Chandler et Joey, donc il a même plus d'appart. La cerise sur le gâteau, on lui a bouffé son sandwich, son super sandwich au travail, et ça le met dans une rage folle.
That said, it was my sandwich. Now calm down. Come look in my office. Some of it may still be in the trash.
C'est un peu difficile à comprendre.
Il le dit, ce sandwich était la seule bonne chose de ma vie.
Vous avez mangé le seul truc qui allait bien dans ma vie. C'est un peu ça, ouais. C'est comme ça qu'il l'explique.
Ouais,
mais c'est complètement irrationnel.
Non, mais ça s'explique parce que moi, du coup, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup questionné la colère. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on en connaît beaucoup, des gens comme Ross, comme ça, qui d'un coup explosent et on comprend pas trop pourquoi, en fait.
Bah
quand t'es extérieur au truc, tu comprends pas. Donc, je pense que tout le monde a l'image, c'est arrivé à plein de monde. Et du coup, je suis un peu allée fouiller sur ce qu'était la colère. Alors, je me suis rendu compte déjà d'un truc, c'est que moi, je pensais ne jamais avoir été en colère ou que c'était un truc très éloigné de moi.
Ah, c'est marrant parce que c'est une des premières choses que tu m'as dites. On en a parlé de ça la première fois qu'on a bu un coup sur la péniche.
C'est vrai ?
Ouais.
Je t'ai dit que j'étais pas en colère.
Tu m'as dit, parce que moi, j'étais là, mais je suis en colère, machin. Moi, je sais que je connais la colère. Et tu m'avais dit, putain, moi, c'est ouf. J'avoue que je suis jamais en colère, je ne connais pas la colère.
Et
je m'étais dit... Impressionnant.
Eh ben en fait pas du tout.
En fait pas du tout.
Non parce qu'en fait pour moi j'ai confondu la colère et la rage. Pour moi la colère c'était de la rage. La colère était forcément violente, c'était forcément. Moi c'est vraiment comme ça que je voyais la colère. D'ailleurs c'est marrant, tu vois ce dessin animé, ce Pixar avec toutes les émotions.
Oui.
Bah la colère,
vice versa.
Vice versa. Merci. La colère, il est tout rouge, il s'énerve tout le temps, effectivement il est tout le temps en train de crier. Donc, moi, je pensais vraiment que c'était ça.
Or, il a toujours le feu à la tête.
Il a toujours le feu à la tête, effectivement. Or, quand j'ai cherché, du coup, ce qu'était la colère, je me suis rendu compte que finalement, en fait, la colère, donc c'est une émotion qui est rattachée à une situation qui n'est pas bonne pour soi, déjà, de base. C'est un signal émotionnel. Après, si toi, tu sais pas comment faire avec ce signal, tu vas rentrer en rage.
Ouais, c'est ça.
Si par contre...
C'est un problème de gestion.
C'est un vrai problème de gestion, en fait. La rage, c'est quand t'as perdu contact avec la cause de la colère que tu ressens. Alors qu'en fait, la colère, ça sert juste à prendre conscience que le monde autour de toi, soit te manque d'amour, soit te manque de respect, soit te...
Ouais.
Enfin, de considération, des choses comme ça, mais...
Il y a un truc qui te fait chanceler, en tout cas.
C'est ça. C'est hyper sain, c'est hyper normal. Et en plus, c'est une émotion qui est très, très, très vieille. C'est un mécanisme émotionnel qui est très ancien, parce que ça te permettait aussi, genre à l'âge de pierre, de voir qu'il y a un truc qui va pas et du coup, de te défendre.
Ouais, c'est un instinct humain, quoi.
Humain, et qui, en plus, là, depuis tellement d'années que c'est normal. C'est, ouais, ça te sauvait à l'époque, la colère,
en fait. Oui, oui, oui. Mais c'est marrant parce que, du coup, je me rappelle d'un film que j'avais regardé. J'ai fait un peu de philo à la fac et on avait regardé un film sur l'enfant sauvage, Kaspar Hauser.
Ouais.
Gaspar Hauser ou Kaspar Hauser, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est un enfant sauvage qui a été trouvé dans la nature dans les années 20, 30, je sais plus, ou peut-être même avant 1850, je sais plus. Et c'est un médecin qui l'a pris sous son aile et qui s'en est servi pour faire des expériences sociales. Et du coup, un jour, il se demande si la colère est un instinct ou une construction sociale. Et du coup, vu qu'il a cet enfant sous la main qui n'a aucun code social, il teste sur lui pour voir s'il se met en colère. Et il se met en colère.
Bah ouais, c'est un instinct.
Face à l'injustice, principalement.
C'est ça, voilà. Face à un truc qui n'est pas normal pour toi, en fait.
Ouais. Et cet enfant qui n'a aucun code réagit à ça et connaît la colère. Quand il est puni alors qu'il a fait quelque chose de mal, il ne se met pas en colère. Et à un moment donné, il le punit alors qu'il n'a rien fait. Et là, il se met en colère.
Il se met comment en colère ?
Violence.
Ouais.
Crie, il se débat, enfin voilà.
Parce qu'effectivement, il y a un problème avec la colère aussi, c'est que quand on la ressent, on est tellement mal qu'il y en a qui vont la masquer complètement et qui vont l'ignorer. Et il y en a qui vont se laisser complètement déborder par la colère. Les deux sont problématiques parce que si tu la masques, il y a un moment où de toute façon, ressortira.
Oui, tu peux pas l'effacer.
Et c'est bien le problème de Ross, je pense.
Ouais.
C'est qu'il le dit, il dit j'ai 30 ans, bon pour lui c'est horrible apparemment,
oui,
il dit je viens d'avoir 30 ans, j'ai eu deux divorces, je viens de me faire expulser et ce sandwich était la seule bonne chose de ma vie, donc là c'est vraiment genre il a contenu, il y a un moment stop en fait, il peut plus contenir et du coup ça sort complètement démesuré et tu vois d'ailleurs son boss là quand il le regarde il est là mais... Il est malade, en fait. Il est juste « Non, mais j'ai juste pris le sandwich. Enfin, »
c'est ce que tu disais, quand ça explose et que toi, tu n'as pas les causes véritables de cette colère, quand ça t'explose dessus, tu ne piges rien.
Tu piges rien.
I have to throw most of it away. You threw my sandwich away. My sandwich! My sandwich!
Et en fait, c'est encore pire parce que toi... Quand tu vas être en colère à ce moment-là, que tu saches d'où ça vient ou pas, tu as l'impression que ta colère est légitime. Et du coup, d'avoir quelqu'un en face qui ne la comprend pas, et parce que la personne en face te la prend en pleine gueule. Donc voilà, c'est encore pire, du coup. Donc c'est pas un bon moyen d'exprimer sa colère, en tout cas.
C'est pas du tout un bon moyen. Alors par contre, c'est important de l'exprimer, ta colère, quand tu la ressens. Après, le seul problème, c'est que, par exemple, pour mon propre cas... J'arrivais même pas déjà à l'identifier, puisque pour moi, la colère, c'était de la rage. Et bien, alors en fait, c'était plutôt que je vais ruminer, je vais être un peu. Je vais pas être bien, je vais beaucoup y penser.
Ouais.
Tu vois, ça va être un truc qui va tout le temps me revenir en tête et qui sera plus de la rumination pour moi.
Ouais.
Je sais pas si ça se dit rumination.
Ouais, mais je comprends.
Tu vois ce que je veux dire. De façon un peu obsessionnelle, tu vois. Je vais être contrariée de façon un peu obsessionnelle. Donc déjà, d'arriver à identifier ta colère, parce que c'est hyper personnel. Tout le monde va réagir différemment. Et de te dire, ah oui, en fait, moi, là, quand je fais ça, c'est que je suis en colère.
Et là, c'est marrant, parce qu'en fait, ouais, Ross, avec son sandwich, là, t'as l'impression... Et en fait, moi, je m'identifie un peu, hein, ce truc-là.
Ah ouais.
Mais t'as l'impression... Bah, moi, ça me rappelle la période où je me suis séparée de mon ex-manipulateur, machin et tout. Et c'est une des périodes où j'ai été le plus en colère, quand j'ai commencé à découvrir un peu de la vérité.
Et t'arrivais à identifier déjà ta colère, c'est ça ?
Ah oui, oui, moi, je l'identifiais.
Et après, t'en faisais quoi, cette colère ?
J'étais noire. Moi, je m'autodétruisais.
Ouais.
C'est-à-dire, je ruminais en boucle, en mode c'est injustice. Je fumais beaucoup de clopes, je mangeais n'importe quoi. J'ai agressé une meuf dans un bar une fois.
Ah bon ?
Ouais, et je me suis rendu compte que c'était
là.
À cause de ça. Enfin, agressé, non, mais il y a une meuf qui m'a renversé sa bière entière dans le dos pendant un concert.
Et là, t'as fait ça.
Et je me suis retournée,
quoi.
Non, mais je me suis retournée, j'ai attendu qu'elle me regarde en mode putain, excuse-moi, la moindre des choses en fait. Tu renverses la bière sur quelqu'un, tu fais oh là là, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. J'aurais fait bon, ok, c'est pas grave, tu vois. Et là, elle m'a regardée, elle m'a fait... Et elle a rien dit, et elle avait un air hyper hautain. Et je la regarde et je lui fais ça va toi, tranquille. Et elle me fait ah bah, excuse-moi madame la princesse. Et je lui ai mis une tarte.
Mais non. Et j'ai... Tu lui as mis une tarte vraiment?
Bah j'ai mis une tarte dans sa bière et après je lui ai poussé la tête.
Non.
Et je lui ai mis sa bière. J'ai fini. Non mais là j'étais dans un cas extrême.
Oui, donc tu as bien la colère en toi. J'étais noire. T'as la rage. Là t'avais la rage.
Non mais là j'avais la rage, mais c'était la seule fois de ma vie que j'étais comme ça. J'embrassais une noirceur inconnue avant, tu vois. Et j'avais envie, comme Ross avec son sandwich là.
C'est ça, t'as fait une sandwicherie.
Ouais, j'ai fait un sandwich. J'ai fait une sandwich de Ross. J'avais envie de mettre le monde à feu et à sang en fait. Tellement t'es mal, t'as l'impression que c'est ce que je l'ai écrit dans la BD. T'as l'impression que le monde extérieur est le décor de ton cauchemar en fait. Donc t'as envie de tout voir cramer.
Tout brûler, ouais.
Et bah après, quand t'identifies ça, faut le traiter.
C'est ça en fait.
Et puis moi, ça m'est arrivé une fois. Et après, je l'ai identifié, j'ai arrêté. Alors pour la petite histoire. Une demi-heure après, je me suis rendu compte que j'avais très mal agi. Donc j'ai cherché la meuf partout dans le bar. Je la retrouve et je lui fais « Ah, c'est toi, je suis désolée pour tout à l'heure. Tu sais quoi, en ce moment, j'ai une vie de merde. C'est pas de ta faute, c'est moi. J'ai une vie de merde et je suis désolée. »
Ah, c'est bien.
Je suis pas comme ça et j'ai mal réagi, je suis désolée. Et là, la meuf, elle m'a pris le bras, elle m'a dit « Franchement, t'es trop mignonne, mais je sais pas de quoi tu me parles.
» C'était peut-être pas elle.
C'était pas elle. Mais elle m'a dit « Franchement, ta démarche est très chouette. » Et voilà. Bien. Et j'ai jamais eu l'occasion de m'excuser auprès de cette meuf.
Non, mais alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement quand tu regardes les trucs sur la colère, on te dit donc déjà qu'il faut savoir l'identifier chez toi. Ensuite, une fois que tu as réussi à l'identifier, il faut déjà la calmer donc par des techniques de respiration déjà ou tu pars parce que si vraiment tu as envie de taper sur quelqu'un, effectivement, vaut mieux partir.
Bah ouais, en général.
Ou faire du sport, ou tu vois, je sais pas.
Ouais, bah sur le moment, c'était difficile de faire des squats, mais.
Non, oui, c'est sûr.
Non, mais faut partir.
Faut partir.
Quand c'est comme ça, faut c'est partir. Ça. Et dans les moments de colère que j'ai pu avoir avant, par exemple, je partais.
Voilà.
Je partais et j'allais pleurer dehors en fumant une clope, et moi, j'évacue beaucoup par les larmes.
Moi aussi, ceci dit, moi
et
aussi.
Et il y a cette fois-là où ça a débordé et j'ai été agressive physiquement. Après, je l'ai pas dénuquée non plus. Hein, voilà, mais quand même. Et oui, vaut mieux partir et chialer et après voir un psy, quoi. Enfin,
exactement. Mais c'est vrai, moi aussi, je l'exprime énormément par les larmes. Et je me souviens d'une fois où je m'étais énervée contre quelqu'un et je pleurais. Donc, je pensais pas que c'était de la colère, mais c'était de la vraie colère. Et la seule façon d'extérioriser le truc, j'étais en Bretagne et c'était d'aller nager dans la mer.
Bah ouais.
Et là, je suis ressortie et j'étais trop bien. Et j'avais réussi à expulser le truc en nageant, en fait, tout simplement.
Ouais, bon, ça peut être plein de choses.
Ouais, voilà. Du coup, trouver ta façon, toi, déjà, de l'évacuer. Et ensuite, de savoir aussi, dans les faits, en fait, ce qui s'est vraiment passé. Et de l'exprimer à la personne qui t'a mis en colère, mais en parlant plus des faits que de l'émotion, à la base. De dire, voilà, il y a eu ce fait-là.
Qui m'a fait ressentir ça.
Exactement. Ouais. Qui m'a énervé, qui m'a fait ressentir ça. Mais en fait, c'est hyper important d'en parler à la personne qui t'a mis en colère. Alors, pas dans l'immédiat parce que t'es trop énervé, mais une fois que t'as fait tout ce travail, c'est super important. Parce que du coup, alors c'est très compliqué aussi parce que parfois ça te met en position d'infériorité.
C'est hyper difficile.
Parce que tu te remets beaucoup en question aussi, parce que tu te rends très vulnérable. C'est hyper difficile d'évaluer ton besoin et de l'exprimer. Tout c'est très dur, mais c'est vraiment salvateur en fait.
Ouais. Ben. Ouais, après je trouve que souvent, ne pas savoir. La colère, c'est un sentiment qui est légitime et qui doit exister et qui doit être traité. La rage et la violence, pour le coup, non.
Non, je suis d'accord.
Et du coup, je pense que les personnes qui, dans ces cas-là, ne savent pas s'excuser, c'est de l'ego, c'est de la fierté.
Ceux qui sont énervés, tu veux dire ?
Ceux qui ne sont pas capables de s'excuser après une violence. Après, une violence, même verbale, hein. Moi, je mets
moi, en fait, moi, je ne demande pas à la personne forcément de s'excuser, mais je demande à la personne de m'expliquer.
Ouais.
Parce qu'en vrai, les excuses, je trouve ça facile. Bon, il y en a qui n'arrivent même pas à le faire, mais moi, pour moi, je m'en fous un peu qu'on s'excuse.
Oui, puis
mais
j'ai besoin de comprendre. Mille fois, quoi.
C'est ça. Ouais. Si tu vas refaire exactement la même chose derrière, ça sert à rien, en fait.
Oui, c'est vrai.
Si tu vas me réhurler dessus. Si
oui, moi aussi, je pense que je préfère comprendre.
Je m'en fous que tu t'excuses, mais par contre, j'ai besoin de comprendre vraiment.
Ouais, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, moi, j'ai toujours compris pourquoi j'étais en colère. Et. Depuis, quand j'étais plus jeune, c'était compliqué, mais maintenant que je suis plus vieille, j'y arrive mieux. Et j'ai appris à vraiment, quand je ressens un truc en colère et tout, à genre vraiment me poser, me dire « Ok, là, t'as une boule au ventre, il se passe un truc. Fais-toi confiance et ne fais pas comme s'il n'y avait rien, en fait. Et pose-toi cette question, pourquoi t'as mal au ventre ?» Et franchement, c'est un entraînement cérébral.
Mais trop.
Et plus tu le fais, plus ça va vite d'identifier ton mal.
Et même si t'as une personne en face qui te dit non mais là t'hallucines complètement et qui te fait passer pour folle, qui te dit non mais n'importe quoi et tout, si vraiment toi tu l'as ressenti, c'est qu'il y a quelque chose en fait quand même.
Bah, sauf si on a des problèmes psychologiques
qui ont été sortir, je pense.
Avérés avant et que non mais que t'es parano, enfin ouais voilà, enfin après c'est des cas extrêmes. Mais moi je pense que quand il y a une émotion ressentie, on parle dans un cas où la personne n'a pas de problème psychologique, de paranoïa ou je ne sais quoi. Ouais, c'est clair, il faut l'écouter et il faut l'identifier et comprendre d'où ça vient. Et c'est hyper important pour soi-même d'abord, mais aussi pour les autres, tu vois. Après, je sais que s'excuser, ça peut être hyper difficile. Mais tu vois, quand j'ai voulu retrouver cette meuf dans le bar pour lui dire, je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de faire des conneries, tu vois. Ce que j'ai fait, c'était pas bien. Alors, je lui ai pas mis un coup de couteau non plus, hein, mais... Je me suis dit, ce que j'ai fait, c'était mal, clairement, si elle s'était comportée comme ça avec moi. Bon, après, elle a été hautaine et très conne, tu vois. Et justement, je voulais faire l'expérience de, est-ce que si je vais m'excuser pour ce que j'ai fait, elle s'excusera de ce qu'elle a fait aussi.
La plupart du temps, je pense que oui, quand même.
Bah, du coup, je ne l'ai jamais retrouvée parce que ce n'était pas la bonne personne. Mais...
non, mais toi, je pense que tu le faisais aussi pour te libérer. Parce qu'effectivement, quand tu es en colère et qu'il y a un vrai truc, tant que tu le gardes en toi, ça te ronge. Tu vois, il faut quand même se libérer d'un truc.
Pourri la soirée.
C'est ça.
Bah, juste après ça, je suis allée au bar. Je me suis pris un verre, j'avais des potes, et je me suis mise à pleurer. Et en fait, la rage est sortie autrement. Et mes potes m'ont dit, bah, qu'est-ce qu'il y a ? Je leur dis, bah, je viens d'agresser une meuf, là, parce qu'en ce moment, ma vie, j'en ai ras le cul, et que je l'ai mis sur quelqu'un d'autre, et que c'est n'importe quoi, et tout. Donc, je me suis posée 10 minutes, parce que j'avais beau m'être énervée sur quelqu'un, bah, j'allais pas mieux, en fait. Et donc, en se posant 10 minutes, je fais, bah, en fait, là, je vais aller m'excuser, parce que là, c'est moi qui crée mon propre mal-être, quoi. Et j'avais exprimé ma colère d'une très mauvaise façon.
Oui, parce qu'en fait, la colère, au-delà de faire chier les autres, ça te fait surtout chier toi, quoi.
Mais c'est un sentiment horrible.
Ça te ronge, c'est horrible.
C'est le pire de tous, je trouve. Je préfère la tristesse à la colère, tu vois.
C'est dur, mais en même temps, c'est important aussi. C'est important de la ressentir et c'est important. On te dit que pour faire le deuil de quelque chose, il faut quand même que tu passes par
oui,
la colère.
Vrai. Ça fait partie du... Bah là, Ross, il est en plein dedans.
Ah, il est dedans, là.
Là, Ross, il faut qu'il fasse le deuil de son mariage, de sa vie, de toutes les projections qu'il avait pour son avenir. C'est un deuil, ça reste un deuil. Et là, on est clairement sur la phase de la colère. Donc c'est en ça que je trouve ça hyper bien fait. Même si, bah, clairement, il s'acharne sur la mauvaise cible.
Mais c'est marrant, Phoebe, à un moment, elle lui dit, il faut que tu... Je sais plus, elle lui a dit, il faut que ça sorte et il faut... pour se faire respecter. Alors c'est un peu bizarre. Elle dit, il faut que tu sortes ta colère pour te faire respecter. Elle lui fait écrire, du coup, tu sais...
un mot.
Et d'ailleurs, elle dit qu'elle s'est fait planter par un flic à ce moment-là.
Well, someday I'll tell you about the time I stabbed the cop.
Phoebe?
What, he stabbed me first!
Mais c'est Phoebe, ça c'est Street Phoebe quoi.
Ouais, c'est
la Phoebe de la rue là qui ressort. Ah oui, c'est marrant parce que dans cet épisode, j'ai noté un truc marrant aussi quand Ross revient et qui dit oh là là, ton mot Phoebe, il a trop bien fonctionné, les gens ils font tout ce que je leur demande et tout machin. Et en fait, il est trop fier de lui parce que sa stratégie fonctionne alors qu'en fait, il est juste en train d'instaurer un climat de peur dans son travail.
Apparently, people now call you mental.
Et puis ça fonctionne pas, on voit bien à la fin du coup, le mec il se fait congédier, il part chez un psy et, tu vois, il est sous antidépresseur quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres épisodes de Friends comme ça où on parle de colère?
Bah il y a le colloque, non le mec de Rachel, tu sais.
Ah oh, ouais
qui
ouais
est
ouais.
C'est pas Ben Stiller qui joue?
Si, joué par Ben Stiller dans le rôle de Tommy.
Tommy.
Ouais mais lui il est fou pour le coup.
Complètement taré.
C'est pas, tu vois c'est ça qui est, enfin c'est vraiment du cas par cas en fait parce que. Lui, là, on peut...
Après, on ne connaît pas son histoire, on ne sait
pas
pourquoi.
On
ne
connaît pas son histoire,
oui.
C'est ça. Mais il a un sérieux problème.
Il s'énerve contre le poussin et le canard.
Idiot! Little fuzzy yellow creature! Oh, look at me, I'm so cute, I'm a little chick who's disgusting! God, you're so stupid, how are you not yet extinct? Quick, what are you quacking about? Dumb Donald Dodo!
Ça
va loin
quand
même.
Ouais, non, mais lui, il est complètement fou. Parce que là, Ross aussi passe complètement pour un fou au travail et tout, mais nous, on connaît le perso et on sait d'où ça vient.
Oui, c'est ça.
Alors peut-être que les amis de Tommy.
Ils pourraient témoigner que la vie de Tommy est très compliquée, qu'il a trop gardé en lui. Et que, du coup...
En fait, Tommy n'est que colère.
Que ça. Non, je sais pas dans d'autres épisodes.
Ah, si, moi, je sais.
Ah.
Ouais, il y a un autre épisode qui parle de ça et que j'adore.
Ah.
C'est l'épisode où Phoebe est avec une cloche pour récolter des dons devant un centre commercial. Et j'adore cet épisode aussi sur la colère, parce que là, du coup, c'est une autre forme de colère. C'est-à-dire que celle de Ross, là, c'est une colère profonde qui vient de ses échecs de vie. ouais. non acceptée et qui du coup se reporte sur le sandwich. Là, la colère de Phoebe, c'est qu'elle fait un acte de charité parce que Phoebe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et qui croit et qui essaye d'agir pour un monde meilleur, globalement. Elle déteste les grandes corporations, elle déteste les grandes chaînes de magasins. Elle est végétarienne, elle a des idées très bobos, très écolo, très avant-gardiste. Hein, ouais. Et du coup, elle fait. Donc elle est devant un centre commercial pour récolter des dons pour les pauvres, je crois, pour une association. Et voilà, il y a des gens qui pissent dans son truc, qui mettent des mégots. Elle finit par s'énerver parce qu'elle veut tellement faire les choses bien qu'elle se confronte au monde réel qui. Ce n'est pas possible, c'est ce que je disais avec mon chien tout à l'heure. J'essaye tellement de faire les choses bien avec mon chien que je me mets une grosse pression et que je finis par détester les gens qui font pas comme moi parce que moi je fais des efforts incommensurables pour essayer de faire un truc droit et bien. Et là, Phoebe, c'est pareil quoi. Elle veut tellement que les choses soient bien, que les gens comprennent et qu'ils soient gentils et qu'ils respectent au moins. Elle demande juste une chose, c'est qu'on respecte son seau quoi.
Et oui, c'est quand t'as plus foi en l'humain, en fait, quoi.
Et en fait, voilà.
Quand t'es déçu par l'humain, voilà. En fait.
C'est là, ça. C'est la déception de l'humanité qui fait que, à vouloir faire une bonne action, elle finit par mettre des panneaux, ne pas pisser dans le truc, ne pas mettre des trucs étrangers, des pièces étrangères, ne pas machin. Et en fait, elle devient aigrie et imbuvable par la déception de l'humanité.
Ouais.
Et ça me parle un peu.
Ouais,
je trouve que c'est un combat difficile, ça. Et c'est difficile.
Et ça rend en colère.
Et ça rend en colère. Mm. Et c'est difficile de ne pas être en colère contre ça, je trouve.
C'est vrai.
Et pour ça, cet épisode, je le trouve bien écrit, parce que du coup, elle fait complètement le contraire. Elle devient horrible, parce qu'elle a voulu faire quelque chose de bien. Et c'est un peu comme les militants anti-fourrure, les militants... certains militants qui veulent tellement faire les choses bien qu'ils deviennent vraiment des boules de rage.
Ouais, mais c'est intéressant, justement, parce que sa colère, elle est très justifiée.
Bah oui.
Elle a raison d'être en colère.
Oui.
Mais alors, qu'est-ce qui déconne, du coup ? Tu vois, pourquoi, d'un coup, ça marche plus parce qu'elle-même s'énerve ? Enfin,
ça marche.
Elle n'a pas pris le temps d'analyser le truc, en fait, tu vois, je pense.
Si, elle sait pourquoi elle est en colère, mais ce qui déconne véritablement là-dedans, c'est que le monde ne peut pas se plier à tes exigences, aussi louables soient-elles. Et qu'en fait, là, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à lâcher prise sur le fait que le monde n'est pas à ton image.
Oui, puis le problème, c'est que ça touche trop de monde. Quand tu es en colère contre une personne, tu peux analyser, comprendre et aller lui en parler et essayer de résoudre le truc. Là, le problème, c'est que ça touche chaque passant. Donc, tu ne vas pas aller faire une thérapie à chaque passant qui...
Tu peux faire une thérapie pour gérer ta colère contre l'humanité. Tu peux aller en parler, dire en fait, je suis en colère tout le temps parce que le monde part en couille. Ça, c'est tout à fait possible et apprendre à gérer autrement, peut-être.
Mm.
Mais clairement, c'est une colère qui est très compliquée, celle-ci.
Parce que c'est entre toi et toi, du coup, qu'il faut que tu la gères. C'est plus avec une personne tierce à qui tu dois exprimer quelque chose.
Il faut la gérer toute seule. Et en même temps, c'est hyper compliqué parce que tu sais que tu as raison de vouloir aider les autres, de vouloir qu'on ne mette pas des mégots par terre, de vouloir... tu vois, à un moment donné, quand elle trouve un badge de flic aussi, elle engueule une meuf parce qu'elle a écrasé un mégot sur un arbre. Enfin, elle a raison. En fait, quand tu sais que tu as raison sur certains principes de base et que tu vois que le monde autour de toi s'en bat les steaks, c'est hyper énervant.
Mm-hmm.
Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'énerve assez régulièrement.
C'est vrai.
Et je travaille là-dessus pour pas passer ma vie à être en colère. Et c'est pas facile, ouais.
That sandwich was the only good thing going on in my life. Someone ate the only good thing going on in my life.
C'est marrant parce que tu vois, par exemple, l'histoire de Ross et son sandwich, c'est un truc duquel je me resserre souvent dans la vie. Parce que pour moi, c'est vraiment la parfaite illustration de... J'ai un problème gros comme un éléphant et je vais aller m'énerver sur un petit truc qui traîne au fond de la pièce. Quoi.
Ouais.
C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une illustration parfaite. C'est Ross et son sandwich.
Ouais.
Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec mon copain il n'y a pas longtemps et je lui ai expliqué l'histoire de Ross et son sandwich. Et maintenant, quand on veut parler d'une situation comme ça, on le dit tous les deux. Il ne connaît pas si bien Friends, mais maintenant il le dit et il a compris le truc et c'est devenu une référence à nous pour éviter de te lancer dans des...
Mais c'est vrai que c'est très parlant quand même.
Voilà, c'est devenu une expression. C'est Ross et son sandwich.
Après, alors pour le sandwich, moi je me dis ça doit être dégueulasse le sandwich imbibé. Moi, quand mon pain de mie est imbibé, qu'il a un peu d'eau, je trouve ça dégueulasse. Donc je ne comprends pas.
Ouais, après imbibé de sauce, ça peut être pas dégueu.
Mais s'il est tout mouillé, dégueu, là.
Je sais pas.
Non, moi, quand il a dit ça, j'avais fait genre...
C'est vrai que ça fait pas extrêmement bandé, dit comme ça. Après, Monica, elle est quand même forte en bouffe.
Ouais,
je testerais bien quand même.
Ouais, moi aussi.
Tu sais que la recette du sandwich avec le Moist Maker, donc c'est comme ça qu'ils l'appellent.
Okay.
Je sais pas comment c'est en VF, comment ils expliquent.
Je sais plus.
Parce qu'en fait, Ross explique en anglais que...
C'est les restes, c'est ça, de Thanksgiving
C'est les restes de Thanksgiving, mais Ross explique qu'elle met une tranche de pain imbibée de sauce au milieu et qu'il appelle ça « the moist maker ». Donc « moist », c'est l'humidité, et « maker », le truc qui fait de l'humidité, quoi.
Yeah.
Ça, ouais, mais c'est « moist », plus dans le sens « t'as pas un sandwich sec », tu vois.
Mm.
Bon, voilà. Mais du coup, je sais pas comment ils appellent ça en VO.
Mais je me souviens plus.
Écoute, on va faire comme la dernière fois, j'irai chercher...
Tu le mettras, ouais.
J'irai chercher la réponse.
Ouais.
Salut, c'est Sophie Lambda, je suis en train de terminer le montage et j'ai retrouvé l'info dont on parle juste avant sur le « moist maker ». En VF, ils appellent ça « le super moelleux ». Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais c'est peut-être un petit peu plus appétissant comme traduction, et ça dégoûtera peut-être un peu moins Virginie.
Oui, voyez-vous, ma sœur me fait toujours de fantastiques sandwichs à la dinde, mais elle a un secret. Elle met une tranche de pain de mie qui a baigné dans la sauce juste au milieu. D'ailleurs, je l'appelle le super moelleux.
T'as trouvé des trucs, toi, sur cet épisode ?
Non, j'ai rien trouvé. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une anecdote sur la série. Et alors, en fait, sur la série, c'est marrant parce qu'on voit, mais après, on voit quasiment dans tous les épisodes les numéros sur les portes des appartements.
Ouais.
Et en fait, dans les tout premiers épisodes, les numéros des portes, c'était 19 et 20.
Ouais.
Et ils ont changé au bout de 5-6 épisodes, je crois, par 3... Non, c'est l'inverse. C'était 3 et 4 au tout début.
Ok.
Et ils ont changé par 19 et 20 parce qu'en fait, ils se sont dit que comme c'est au, je sais plus combien tième étage, 4e, 5e, 6e, enfin c'est haut en fait dans l'immeuble et qu'il y a pas mal d'appartements, ça peut pas être 3 et 4 en étant si haut. Et du coup, au bout de 4-5 épisodes, ils ont mis 19 et 20.
Ils ont changé.
Voilà. Du coup, ils se sont dit, on va pas faire un déménagement et tout, personne va remarquer parce que c'était le tout début de la série. Ouais, ils pensaient pas que les gens seraient aussi fans que ça. Et donc,
c'est marrant.
Ouais.
C'est drôle parce que donc, l'appartement de Monica, on voit un angle de rue parfois qui est filmé.
Ouais.
Et c'est le croisement de Bedford Street et Grove Street. Et j'y suis allée.
À Manhattan.
C'est dans East Village, donc c'est le sud-est de Manhattan. C'est un quartier trop cool. Évidemment que je suis allée. Bon, il n'y a pas grand-chose à
T'as
voir.
T'as reconnu
en vrai. Oui, j'ai reconnu le coin de rue avec l'immeuble et tout ça, qui est encore là. Donc en tout cas, moi j'y suis allée il y a 3-4 ans, il était encore là. Mais alors, il y a quand même une erreur et un mauvais choix dans ce choix d'angle de rue, parce qu'en fait, il n'y a pas de terrasse.
Ah oui, super.
Il n'y a pas du tout de terrasse sur cet immeuble. Et c'est vrai que quand tu le regardes, bon, ça va très vite, hein, c'est presque subliminal. C'est angle à chaque fois qu'on voit l'angle de la rue.
Ah oui, j'ai jamais fait attention.
Il n'y a pas de terrasse en fait.
Oui, c'est vrai.
Et même si elle est sur le toit, c'est pas possible. L'immeuble est fait de façon à ce qu'il n'y a aucune terrasse. Et après, tu as une partie qui donne sur l'intérieur, j'imagine, mais on voit bien que Monica, ça donne sur la rue. Et c'est pas possible en fait.
Trop marrant.
C'est mal choisi pour ça. Ouais. Et effectivement, en vrai, j'y suis allée, j'ai regardé un peu sous tous les angles et tout. Bon, voilà, il n'y a pas de terrasse.
Ok.
Sinon, moi, j'ai un super tips en anglais aujourd'hui.
Cool.
Je suis trop fière de mon tips.
Trop bien.
Alors, c'est marrant parce que je l'ai regardé deux fois en VOVF. J'ai rien trouvé de ouf en VOVF. J'étais un peu déçue. Pas d'expression sympa, pas de... Voilà. Par contre, à un moment donné, je suis tombée sur un truc que dit Phoebe et je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question, que j'avais jamais fait de recherche là-dessus.
I didn't know you were taking a class. That's so cool.
Yeah, well, I really liked that Lamaze class I took.
Lamaze class. C'est quand Phoebe annonce qu'elle va prendre un cours de littérature. Elle dit, bah ouais, j'avais vraiment kiffé les cours d'accouchement, mais j'aimerais bien quelque chose avec un examen un peu moins difficile, un truc un peu plus facile, enfin voilà. C'est marrant. Et du coup, en français, ils appellent ça les cours d'accouchement. Et en anglais, les cours d'accouchement, ça se dit Lamaze class. Donc Lamaze, L-A-M-A-Z-E. J'ai cherché, parce que je me dis, mais d'où ça vient ce truc ? Et en fait, Fernand Lamaze, c'était un résistant français qui était vosgien, fils de paysan lorrain.
Mais non.
Et il a été reconnu comme le développeur de la méthode d'accouchement sans douleur.
Trop marrant. Et pourquoi nous, on ne dit pas ça ?
Eh ben, c'est marrant parce que c'est une méthode qui s'est exportée plus facilement aux États-Unis et qui n'a pas été retenue en France. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'il y a eu des mecs qui sont arrivés après derrière lui et qu'il y a eu des théories contradictoires sur certains trucs et qu'on n'a pas gardé le terme de Lamaze. Et en fait, ce
Trop
mec,
bien.
Il est né en 1891. Et en fait, c'était un mec qui était un grand lecteur, un grand humaniste, un fils de paysan qui a été résistant pendant la guerre et tout. Donc un sacré bonhomme.
Un mec bien.
Et en fait, quand il a fait ses études de médecine, il était parti pour faire de la neuro. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa carrière. Et en fait, il a décidé de se tourner vers la gynécologie et l'accouchement le jour où il a vu sa femme accoucher de sa fille. Et la douleur de sa femme a été intenable pour lui à regarder. Et ça l'a rendu ouf. Et il s'est dit, je vais me battre pour que les femmes accouchent avec le moins de douleurs possible. Après, sa femme a eu un accouchement difficile. Donc, il a exercé à Paris, après la guerre, à la clinique des Bleuets pendant un certain temps. Et en fait, c'était vraiment une révolution médicale dans les années 50. Et donc, c'était un mec de chez nous. Et c'est aussi lui, c'est un féministe avant l'heure, puisque c'est lui qui a initié la présence du mari lors des séances de préparation à l'accouchement.
Ok.
Parce qu'avant, les maris n'étaient pas conviés, c'était qu'un truc de femme. Et lui, qui était très investi dans la grossesse de sa femme avec sa fille, a commencé à dire les maris doivent être là. Et les Lamas Glass, effectivement, on le voit quand Ross le fait avec Carole et Suzanne, les maris sont là. Voilà.
Trop bien.
Un illustre médecin, Fernand Lamaz.
Super.
Qu'on connaît pas assez, mais voilà, qui a fait beaucoup de choses pour les femmes. Du
bravo,
coup...
Lamaz.
Check Lamaz.
Simer Lamaz.
Now imagine your vagina is opening like a flower.
Saison 10, comment Chandler fait-il taire Monica pendant qu'ils espionnent les deux nouveaux couples de la Barbade avec Phoebe?
Comment est-ce qu'il l'a fait taire?
Ouais, parce qu'elle parle trop fort. Et il l'a fait taire.
Il n'y a pas un truc avec ses tresses?
Si, mais... Enfin, c'est lié, mais...
Oh, merde.
Elle n'a pas encore ses tresses.
Je sais plus.
Bah, il lui bourre ses cheveux dans la bouche.
Oh my God, I love how thin these walls are! Thank you.
Saison 8 et 9. Moi, j'aurais jamais su, mais je suis sûre que toi, tu vas savoir. Comment s'appelait le petit ami imaginaire de Monica au lycée?
Attends.
C'est dur. T'es forte en prénom, toi.
Le petit ami... C'est pas Timothée?
Non.
Attends.
Rien à voir.
Non. Le petit ami imaginaire? Ah, je sais plus.
Jared.
Ouais, je maintenant...
Je pensais
oui,
que tu
mais...
l'aurais, parce que t'es fort.
Ouais. Mais elle en parle qu'une fois, je crois, en plus. Hein.
Hey, are you sure you're not talking about your imaginary boyfriend?
No, that was Jared.
Wow. I haven't thought about him in a long time.
Qui est le premier personnage à parler dans la série, saison 1, du coup?
Ah putain, je crois que c'est Monica.
Ouais, bien ouais. C'est quand elle parle de son date pourri avec Paul the Wine Guy. Ouais.
There's nothing to tell. It's just some guy I work with.
Saison 1 et 2. Que finit par manger la bande d'amis pour son premier dîner de Thanksgiving?
Eh ben, ils font du pain, parce qu'il n'y a plus du... Ben, je sais plus.
Des sandwichs. Et de la soupe.
And hey, here's to a lousy Christmas.
And a crappy New Year.
Quel genre d'études poursuit Frank Junior? Il étudie quoi, quand il reprend ses études?
Ouais. Je sais plus, merde.
Il est à la fac des frigos.
The best thing for me to do is drop out of college and get a job.
No, Frank.
No, you can't quit college. No. You're in college, really?
Yeah, refrigerator college. Yeah. Yeah, you know, when we found out we were going to have a baby, you know, I figured, you know, like I should have like a career, you know? And I love refrigerators.
Ross tente par tous les moyens... Alors, pardon, saison 6 et 7. Ross tente par tous les moyens de cacher ses dents blanchies à Hillary pendant le rendez-vous. Comment son stratagème finit-il par échouer?
Bah parce qu'elle allume des lumières noires.
What's the matter with you?
What's the matter with me? You've got a black light. It's 1999!
Bon, bah très bien. Voilà. On a fini?
Ouais.
On a fini. Ça va, toi?
Ça va,
ouais,
toi?
C'était... Ouais. Pas de cracotte qui nous emmerde aujourd'hui.
Non.
Franchement, grand
tranquille.
Luxe. Ah oui, alors dans tous les autres épisodes, on a annoncé qu'on allait faire une plateforme de tips. Il s'avère que ça a été un peu galère, donc on a juste mis un lien de don, PayPal, pour... C'est exactement la même chose, en fait. Hein. Si vous voulez donner des petits pourboires, soutenir le projet, on en a eu quelques-uns. D'ailleurs, on remercie
Merci.
Tout le monde
qui
nous a soutenus, là...
sympa.
Voilà, et ben à la prochaine.
Et ben merci. Ouais.
Ciao.
Salut.